Toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 avec Elvis Noemsi pour parler littérature africaine. Bonjour Elvis, tu vas bien ?
Bonjour Guillaume, ça va très bien et toi ?
Ça va bien, merci. Tu vas nous parler d'un livre particulier aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'un livre qui s'intitule Ville cruelle.
Ville cruelle.
Oui, de l'écrivain camerounais Ezaboto, comme il s'appelait à ses débuts,
oui.
Mais et Mongo Betty par la suite.
Mongo Betty, donc c'est un livre fondateur un petit peu de l'identité de la littérature africaine moderne.
Oui, tout à fait. C'est un livre qui a été publié à un moment où les jeunes Africains, et notamment les jeunes écrivains, étaient en quête d'une voix, d'une identité particulière. Et c'est un livre qui a en fait jeté les bases de ce qu'est devenu la littérature ou les littératures africaines, au moins à leur début. C'est vrai qu'après, elles ont subi un peu le coup de l'histoire et elles ont changé, mais vraiment, c'est lui qui a ouvert les premières voies.
Alors, est-ce que en deux mots, tu peux nous parler de l'histoire, le pitch, comme on dit dans le vocabulaire cinématographique ?
Oui, tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure que Ville cruelle est un texte qui a été publié en 1954 dans la maison d'édition Présence africaine.
Oui.
Et c'est un texte qui parle d'une ville africaine des années 1930, de l'attraction qu'elle exerce sur les jeunes personnes issues des villages environnants et de Bamila notamment, qui est le nom d'un village. C'est le cas de Banda, le héros de ce texte, issu de Bamila, le village de son père. Banda est un jeune homme dans la force de l'âge qui voue un amour considérable à sa mère, cette femme qui s'est employée sans relâche depuis le décès de son père à offrir le meilleur du monde à son seul enfant. Et donc, travailleur acharné, Banda a produit une quantité considérable de cacao, 200 kilos pour être exact, qu'il veut vendre à la ville dans le but notamment de s'acquitter de la dot de la jeune fille qu'il s'est promis d'épouser afin d'offrir une dernière joie à sa mère qui n'est plus loin de la sépulture. Seulement, les choses ne se passent absolument pas comme prévu. Une série de péripéties commence très rapidement. C'est d'abord le pourtant très bon cacao de Banda qui est confisqué par un contrôleur occidental chargé d'acheter aux villageois leur cacao pour cause de mauvaise qualité. Il s'agit en fait d'une ruse. Lorsque le cultivateur veut réellement que son cacao soit accepté, il doit s'entendre au préalable avec le contrôleur à qui il verse pour l'occasion un bakchiche. Banda s'y refuse catégoriquement, son cacao est donc confisqué en vue d'être incinéré, mais le texte nous indique de manière implicite que ce cacao est récupéré une fois que les cultivateurs, en proie au désespoir, décident d'abandonner les lieux. À ce niveau, le monde de Banda s'effondre, pour reprendre un titre du Nigérian chinois Achebe. La ville est alors décrite comme une espèce de monstre géant qui avale et broie les personnes venues du village. Son impact est tel sur les villageois qu'ils y perdent même leur âme. Finie la solidarité qui lie les membres d'une communauté dans les villages. En ville, c'est la recherche du profit personnel. On ne sait même pas du malheur d'autrui. On travaille de manière mécanique et s'agglutine aux couches les plus pauvres de la population qui fournissent une main d'œuvre bon marché aux vendeurs grecs. Le malheur de Banda n'émeut donc personne. Lui qui déprime à l'idée qu'il ne rendra jamais sa mère heureuse. Mais c'était sans compter sur les concours de circonstances. Dans une buvette, Banda fait la rencontre d'une jeune femme qui se nomme Odilia. Celle-ci est à la recherche de soutien pour son frère Koumé. Le dénommé Koumé était un mécanicien au service d'un grec qui refusait de les payer, ses collègues et lui. Ceux-ci ont donc entrepris de le conduire manu militari dans un commissariat. Mais les gardes régionaux, une horde d'Africains au service des colons et supervisés par un occidental, se mettent en travers de leur chemin. Dans la débandade, les mécaniciens laissent alors brutalement tomber leur patron grec dont le crâne percute brutalement le bitume. Transporté à l'hôpital, il décède. Une course-poursuite est alors lancée contre les mécaniciens et en particulier leur chef Koumé, frère d'Odilia, qui aurait en plus de cela dérobé de l'argent grec, argent que les mécaniciens pensent avoir mérité à force de labeur. Banda entreprend de donner un coup de main à Koumé pour que celui-ci quitte Tanga, sa sécurité ne pouvant plus être garantie dans cette ville. Il faut partir de nuit pour éviter les écueils, passer par la forêt et enjamber le dangereux pont qui permettra de rejoindre le village. Mais c'est un péril gigantesque. Banda, qui est habitué à traverser le pont, le franchit en compagnie d'Odilia. Il demande à Koumé d'attendre ses instructions avant de l'enjamber à son tour. À peine sont-ils de l'autre côté du pont que retentit un bruit infernal. Quelque chose a craqué, mais quoi ? C'est ce que je vous dirai dans la suite de la chronique. Je vous parlerai de cette suite, mais ce que je voudrais que l'on note qui est vraiment impératif, c'est que Mongo Betty ne peint pas là le parcours d'un jeune homme solitaire qui traverse des épreuves quelconques. Il dessine, à l'image de ce qui se passe au quotidien dans les sociétés africaines de l'époque, le portrait d'une société qui s'est fracassée sur la colonisation et a perdu ses repères. Il y est aussi bien question des ravages du christianisme qui n'a eu de cesse d'abrutir les populations, procédant ainsi à un travail de défrichement pour la colonisation. Il s'agit aussi des injustices que subissent au quotidien les populations qui n'ont aucun moyen de faire face à la force qui s'abat sur elles de manière impitoyable.
Alors le background, disons, historique, c'est-à-dire la colonisation, on a bien compris, baigne ce livre qui est un roman un petit peu noir, peut-être assez réaliste d'après ce que j'entends. J'essaye d'imaginer un petit peu la vie de ce jeune homme et d'après ce que tu as décrit, en fait, je pense qu'effectivement il s'agit de quelque chose d'un petit peu sombre.
Oui, en fait, je pense que tu décris très bien, tu devines très bien parce que Mongo Betty, c'est quelqu'un qui s'est démarqué tout au cours de sa carrière par une écriture très réaliste qui ressemblerait un peu à ce que Émile Zola faisait en France, c'est-à-dire une écriture qui est vraiment aux prises avec la réalité, qui décrit au plus près les expériences quotidiennes des populations. Et c'est d'ailleurs surprenant parce que très rapidement, Mongo Betty a quitté le Cameroun et il s'est installé en France et il y a vécu en exil parce que malheureusement, les textes qu'il écrivait ne lui permettaient pas de rentrer au Cameroun compte tenu de la censure qui y faisait rage. D'accord. À l'époque. Et donc, en dépit de cet éloignement, il a continué à écrire à faire des textes qui étaient toujours réellement en prise avec les réalités locales.
Alors, sur l'accueil de ce roman particulier, ce roman-ci, Ville cruelle, est-ce que l'accueil au niveau national et international, comment est-ce que ça s'est passé?
Alors, au niveau international, le texte a été très bien accueilli. Il s'agissait déjà à cette époque d'un des rares textes écrits par un écrivain africain de manière générale. Donc, ça a été très bien accueilli, oui. Notamment par les jeunes Africains qui étaient en capacité de lire, notamment des étudiants, parce que ce texte permettait justement de peindre leur quotidien et parfois les difficultés qu'ils avaient traversées. Par les autorités camerounaises, c'était autre chose en fait, parce que c'était des autorités commençaient déjà une certaine portion de ces autorités étaient encore des autorités coloniales, oui. Une autre portion c'était déjà un peu des autorités de transition. Mais il y avait une certaine logique en fait entre ces deux autorités-là, les autorités de transition ayant été installées par les autorités coloniales, il n'était pas question de laisser décrire des phénomènes qui tendraient à donner le sentiment que les populations souffraient véritablement. Donc, le texte a été censuré au Cameroun.
Censuré, donc effectivement, puisque trop proche probablement d'une réalité que les autorités préféraient occulter ou ne pas laisser entrevoir.
Tout à fait, c'est cela même. Petite précision avant qu'on ne termine, je précise aux auditeurs, malheureusement, la littérature de Mongo Betty n'est pas très accessible au Canada, mais on peut la retrouver, on peut retrouver ses textes sur des sites internet tels que Amazon, moyennant oui. $20 maximum.
Oui, on peut peut-être même retrouver les textes sous forme numérique.
Oui, tout à fait, parce que oui. Mongo Betty, l'avantage, c'est qu'il a publié dans des maisons d'édition françaises, oui. Donc la majorité de ses textes sont disponibles en version numérique.
Eh bien, merci beaucoup Elvis pour ce premier point sur ce livre qui a l'air passionnant, que j'ai envie de dévorer maintenant, Ville cruelle, Mongo Betty. Merci de nous avoir fait découvrir ça. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.
Oui, merci à toi Guillaume, à la semaine prochaine.
Et nous on reste sur Choc FM 105.1.